Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale, on est très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, et puis pas de surprise, hein, au lendemain de l'Enfer du Nord, on va débriefer ensemble ce Paris-Roubaix, une course qui, je pense, a fait assez débat. On va essayer de se demander en fait si on a vécu un exploit historique ou alors une course plutôt ennuyante, et puis en deuxième partie d'émission, on fera un petit focus sur le Tour du Pays Basque. On reviendra notamment sur la grave chute qui a impliqué Vingegaard, Evenepoel, Roglic, et puis on essaiera d'analyser le final et belle étape finale d'ailleurs et cette victoire de Juan Ayuso. Donc bah écoutez, j'espère que vous allez très très bien, et pour m'accompagner ce soir, forcément quelqu'un qui a eu le nez fin, puisque dans la preview, il a évidemment annoncé, c'était le seul que Van Der Poel allait gagner, et bim, il la met au fond, c'est Antoine alias Poppy. Comment ça va Poppy?
Salut, salut à tous, écoute, ça va très bien, oui, le nez fin, après c'était pas très compliqué d'annoncer
t'as pas pris
dans les potentiels victorieux. Non, pas trop je pense, mais c'est vrai que j'ai eu un petit moment de doute quand il y avait ce groupe de tête et que Van Der Poel roulait devant et que Philippine était encore là. J'ai eu un petit peu de doute, mais sinon voilà, Van Der Poel a fait le job et on va en reparler de toute façon.
Tout à fait. Alors, avant de démarrer ce débrief de Paris-Roubaix et du Tour du Pays Basque, petit rappel, n'hésitez pas à nous soutenir sur YouTube en vous abonnant à notre chaîne. Ça y est, on est plus de 2000. C'est quand même incroyable. L'année dernière, à la même époque, on était près de moitié moins. Donc, franchement, c'est top de vous avoir. Et puis, si on peut viser, pourquoi pas le petit objectif, ça paraît loin encore, mais des 3000 pour le Tour de France, on sait jamais. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous abonner. Et puis, également, comme dirait la Torne, petit point réclame, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, pour découvrir les très nombreux et très réguliers articles de Matt et Simon. Ils font un boulot incroyable. Franchement, il y a des petites pépites qui sortent toutes les semaines. Là, ils viennent de sortir une belle série sur l'équipe Scaltel. Ça doit vous rappeler beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs d'enfance à certains. Donc, n'hésitez pas, foncez. Eh ben, écoute, Poppy, si tu veux, on peut démarrer sur ce petit débrief de Roubaix.
Ouais, complètement. Tu veux commencer ou j'y vais?
Je vais te lancer avec une question en fait, parce que j'ai l'impression que c'est le truc qui fait un peu débat. Alors c'est clair que voilà, à 60 km de l'arrivée, c'était plié. Hein. Bon, on s'est tous dit, ok, il est parti. Peut-être quand il y avait jusqu'à 30 secondes, c'était possible encore qu'il se passe ces trucs. Et puis après, on a vite compris que à partir de 45 secondes et une minute, que là, c'était plié pour les 50 derniers kilomètres. Donc, est-ce que tu dirais qu'on a assisté à une course ennuyante ou plutôt une course voilà qui légendaire qui va rester dans l'histoire?
Bah honnêtement, je pense que ça a été quand même une course ennuyante. Voilà, Van Der Poel a mis sa pépite à 60 bandes de l'arrivée. À partir du moment où il a pris une minute trente d'avance, on se doutait que c'était un peu plié, surtout en voyant les réactions des autres de derrière, en sachant que Philippe était dans le groupe. Mais j'ai envie de dire que ce genre de course qu'aujourd'hui on a pu trouver ennuyante, par exemple, bah ça fait partie de la légende de ce sport-là qu'est le cyclisme. Et je pense pas que dans 20 ans, dans 30 ans, on se dira « Oh, Van Der Poel a gagné Paris-Roubaix, mais bon, franchement, rien de fou, il y avait rien de dingue, quoi. Course nulle, course chiante. » On se dira plus « Bah, en fait, il a gagné parce que juste, il était à un niveau stratosphériquement au-dessus des autres. » Et voilà, c'est 3 minutes d'avance sur son comparse Philipsen, et ben en fait ouais, c'est de la légende, voilà, ça sera de la légende, on peut pas le nier. Mais sinon oui, course quand même un poil ennuyante, voilà, y a pas eu tant de retournements de situation que ça au final, pas de d'éclatement en plein de petits groupes. Alors il y en a quand même eu 2-3 avec ce groupe Philipsen, Pedersen, Polite, Stéphane Kuhn qui craque un peu sur la fin. On a eu Lorenz Pitti qui était dans un groupe derrière aussi. Mais bon, Lorenz Pitti, il chute à 30-40 km de l'arrivée, il me semble. Donc voilà, pas mal de choses au final. Mais un Paris-Roubaix, moi, que j'ai trouvé en tout cas moins intéressant que l'année passée.
Ouais, en fait, ça promettait beaucoup, j'ai envie de dire, dans la première partie, puisque ça a assez vite explosé dans les secteurs, et on s'est dit, ouais, ça va être un Paris-Roubaix dantesque, là, vers 150 km de l'arrivée, quand dès le deuxième, troisième secteur pavé, là, en montée, Alpecin, ils font tout exploser. Je me suis dit, bon, j'imaginais pas forcément Van Der Poel aussi fort, et je me suis dit, peut-être que, voilà, on va assister à une super course. Enfin, ça va être débridé loin de l'arrivée, et on va pas se le cacher, hein, quand la course, elle se lance de loin, on est plutôt content. Voilà, malgré tout, effectivement, je te rejoins à partir du moment où il a attaqué, même si je suis fan de Mathieu Van Der Poel. Bah voilà, après, j'ai un petit peu moins kiffé, et j'avoue, je me suis vite rabattu sur le groupe de derrière, on va essayer de suivre un peu mes petits coureurs préférés, dont Lorenz Pitti, bon, qui malheureusement a fait une sacrée gamelle, mais c'est top ce qu'il a fait à 21 ans, mais voilà, on se raccroche un peu à d'autres types de coureurs à suivre. Toujours est-il que moi, effectivement, on course ennuyante sur le moment, mais je pense qu'il participe en tout cas, si ce n'est à un Paris-Roubaix légendaire, à la légende du coureur, parce que Je pense qu'il lui fallait une course comme ça à Mathieu Van Der Poel pour rentrer un peu plus dans, on va dire, dans le panthéon de ces légendes du cyclisme, parce que tu vois, on remarque, bah, Tom Boonen, Fabian Cancellara, ils ont gagné des super Paris-Roubaix, c'est les meilleurs Flandriens de notre siècle. Et ce que je retiens, moi, de Cancellara et de Boonen dans leur domination, c'est ce Paris-Roubaix 2010 de Cancellara où il attaque à 50 km de l'arrivée, et ce Paris-Roubaix 2012 de Boonen où il fait 60 derniers kilomètres tout seul. Et mine de rien, enfin, je sais pas comment tu le vois, mais moi, j'ai l'impression que il lui manquait, même si Van Der Poel, il a gagné des grandes victoires, mais ces Tours des Flandres qu'il gagne, à part celui de cette année, il était jamais tout seul. Et celui de cette année, il a pas, enfin, il a, on s'était dit, justement, il gagne pas avec une énorme marge. Paris-Roubaix, ben voilà, il gagne l'année dernière sur cette crevaison de Van Aert. Je pense qu'il y avait besoin pour lui, pour construire sa légende sur une telle course, d'une telle démonstration. Et voilà. Et là, je pense que Van Der Poel, avec ça et avec ce palmarès, maintenant, il continue à construire l'histoire, et en tout cas, cette victoire, elle va être très très marquante quand on fera les comptes à la fin de sa carrière.
Ouais, mais complètement. Et puis, malheureusement, pour lui, j'ai envie de dire, il vient de faire un Tour des Flandres où il a archi-dominé la course, un Paris-Roubaix où il a archi-dominé la course, mais deux courses, tu vois, sans concurrence. Et j'ai pas envie que ça lui enlève quelque chose, tu vois. J'ai pas envie qu'on dise, bah ouais, mais bon, le Tour des Flandres, Pogacar et Van Aert sont pas là. Oui, Paris-Roubaix, super, mais Van Aert, bah, il est pas là non plus. Et j'ai pas envie qu'on lui retire ça à Van Der Poel. Certes, il met 3 minutes d'avance à tout le monde, mais c'est pas que derrière Philipsen, Pedersen, Poli, Kung, etc. Ils sont pas au niveau, tu vois. C'est juste que Van Der Poel, il est vraiment un cran au-dessus. Et je pense que là, c'est important de le dire et de s'en rendre compte, c'est qu'il est vraiment un cran au-dessus. Comme lorsque Pogacar, il gagne le Tour de France. La deuxième fois, voilà, il est clairement un cran au-dessus de tout le monde. Quand Vingegaard gagne cette année, bah, il est clairement un cran au-dessus de tout le monde aussi. Voilà, ça enlève rien à la superbe de Van der Poel d'avoir explosé ce Paris-Roubaix, explosé le Tour des Flandres. C'est deux monuments du cyclisme. Tout le monde s'entraîne pour ce genre de course. Je pense pas que Pedersen y soit venu comme un touriste sur ce Paris-Roubaix, loin de là. Donc voilà, je pense que Van der Poel, il est juste un cran, mais un très gros cran au-dessus. La seule personne qui pourrait rivaliser avec lui aujourd'hui, c'est Van Aert dans une course comme ça. Mais bon, voilà, malheureusement, avec les circonstances qu'il y a eu, Van Aert ne pouvait pas faire partie de ce Paris-Roubaix-là. Mais je pense que même si Van Aert avait été là, je reste persuadé que Van der Poel aurait quand même gagné.
Ouais, on saura jamais, effectivement, bah ouais, c'était très triste, hein, de pas pouvoir avoir
On
un Wout
saura
van
jamais, ouais.
Aert, et puis Stuyven qui aurait pu créer un peu de mouvement pour la Trek. Enfin voilà, il manquait quand même deux trois coureurs pour créer un peu d'adversité, et effectivement, sur le moment, c'est décevant, mais tu vois, c'est un peu comme Evenepoel l'année dernière qui gagne Liège parce que enfin, pas parce que
Ah ouais.
Pogacar y chute, mais on se dit voilà, il n'y a pas eu d'adversité. Un an après, finalement, ce qui reste en mémoire, c'est Remco Evenepoel. Il a fait une démonstration 2 ans de suite sur Liège, et Mathieu Van Der Poel, dans 10 ans, on se souviendra plus tellement qu'il n'y avait pas Wout Van Aert ou Jasper Stuyven au départ de cette course. Et voilà, ça restera un peu à la postérité. Donc effectivement, voilà, je pense qu'il y a cette ambivalence un peu sur le moment, et je pense qu'on est un peu tous déçus de ce manque d'adversité. Et puis en même temps, bah voilà, Van Der Poel, c'est pas sa faute s'il n'y avait pas tous les adversaires en face, et du coup, bah voilà, il a montré de toute façon avec 3 minutes qu'il était vraiment très 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 fort, et que sur une course où tout le monde disait qu'il n'y avait pas forcément à avoir la même facilité qu'au Tour des Flandres, bah il a répondu que voilà, comme Pogacar ou comme Vingegaard, chacun dans leur domaine. Bon, Pogacar un peu dans tous les domaines, mais voilà, ces mecs,
Ouais.
ils sont un peu au-dessus du lot. Moi, j'ai une question, puisque du coup, on va refermer la page des Flandriennes pour se diriger tout doucement vers la Zardennes. Donc, si un peu on fait un rétro de ces classiques Flandriennes, Van der Poel, où est-ce que tu le situes par rapport, par exemple, à des Tom Boonen ou des Fabian Cancellara? Est-ce qu'il est déjà, voilà, au-dessus de ses coureurs? Est-ce qu'il est à leur niveau, ou est-ce qu'il lui manque un peu encore un truc pour les rejoindre? Je sais pas comment tu vois ça, toi.
Bah écoute, c'est pas vraiment les mêmes époques, ni je trouve, non, c'est pas non plus la même façon de pédaler. Tu vois, Tom Boonen, c'était vraiment vraiment une grosse puissance. Van der Poel a aussi une grosse puissance, mais Van der Poel, j'ai l'impression qu'il a plus une capacité de punch aussi, et il a un tranchant que je trouve remarquable. Et je trouve que ce côté tranchant de Van der Poel, tu vois, il est assez unique et propre à lui, c'est-à-dire que il a ce côté. Cet aspect de très grosse lourdeur, tu vois, par exemple, quand il attaque dans les Strade Bianche, il a cet aspect où là, il fait quand même un peu le pas lourd, mais il a une vitesse qui est incroyable, et du coup, il a l'impression quand même qu'il flotte dessus. C'est assez paradoxal. Là où un Tom Boonen, par exemple, lui, tu vois, on ressentait vraiment cette grosse puissance, cette capacité à amener un sprint et à le conclure à la fin d'une course ultra, ultra éprouvante. Donc, je sais pas, je dirais que c'est quand même deux styles assez différents. Mais après, je pense qu'en termes de palmarès, il aura rien envie à ces deux gars-là. En plus, lui, sans qui les saisons de cyclo-cross attirent l'arigot à chaque fois avant de venir sur la route. Voilà, et puis Van Der Poel a aussi, on le connaît beaucoup par rapport à sur ses courses d'un jour, hein, mais bon, il y a quand même une victoire sur le Giro, enfin une victoire d'étape, pardon, sur le Giro, il y en a une sur le Tour de France aussi. Est-ce qu'il peut pas aller taper, je sais pas, peut-être, enfin il a déjà tapé l'Amstel, mais est-ce qu'il peut pas aller chercher un Liège, tu vois, il y a pas mal de questions qui se posent autour de ça, mais en tout cas, de là à le mettre au même niveau que Bonnone et Cancellara actuellement, je ne sais pas, en fin de carrière, oui, je pense qu'il sera dans le même wagon, ça c'est une certitude.
Ouais, parce qu'en fait, il a que 29 ans. Alors, il est à égalité avec Bonnen et Cancellara en termes de Tour des Flandres. Ils en ont tous trois. Et en termes de Paris-Roubaix, ben, Bonnen est un peu devant à 4 Paris-Roubaix, Cancellara 3 et Van der Poel maintenant 2. Mais voilà, Van der Poel a 29 ans. À son âge, Cancellara, il avait gagné aucun Tour des Flandres encore. Donc, voilà, je pense qu'en tout cas, si ce n'est au-dessus, il sera en tout cas au même niveau que ses coureurs comme Flandrien du siècle, je pense. Et parce qu'il a cette petite marge de progression. Et effectivement, je pense qu'il a peut-être, par exemple, plus de polyvalence qu'un Tom Bonnen, puisque voilà, il peut aller chercher d'autres courses. Et du coup, bah voilà, pour finir sur le chapitre Van der Poel avant de reparler de la course, petit débat très très rapide, hein, mais voilà, Van der Poel, on va encore le retrouver, puisqu'il y a les Ardennaises qui commencent, il va être présent sur deux d'entre elles, sur l'Amstel et surtout sur Liège. Alors l'Amstel, il l'a déjà gagné, donc on n'a pas forcément de doute sur sa capacité à être présent. Mais voilà, Van der Poel va aller défier, selon toute vraisemblance, Tadej Pogacar sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que pour toi, il peut aller remporter Liège-Bastogne-Liège et s'offrir un quatrième monument différent?
Eh bien, écoute, ouais, pourquoi pas. Alors, il y a Pogacar qui sera là vraisemblablement. En tout cas, c'est annoncé. Ça va être un petit peu le gros risque. Tu vois, Van der Poel, enfin, on a déjà vu ce duel Pogacar-Van der Poel plusieurs fois. Pogacar a pas mal de fois lâché Van der Poel, comme au Tour des Flandres, on s'en souvient l'an passé. Après, quand Pogacar n'arrive pas à lâcher Van der Poel, on sait comment ça se passe à chaque fois. C'est-à-dire que Van der Poel, il me semble à chaque fois que les deux sont dans la même roue. Hein. Van der Poel règle toujours le. Enfin, en tout cas, finit devant Pogacar, notamment sur Milan-San Remo bah, l'année passée. Et Milan-San Remo cette année, alors, il gagne pas, mais bon, Pogacar est quand même dans ce groupe-là. Et au final, Pogacar se fait avoir au final. Et puis, il y a Championnat du Monde également où Van der Poel est plus fort. Et voilà, Pogacar est battu encore une fois. Donc, je sais pas trop. C'est une course assez différente, quand même, Liège, de ce qu'on
Ouais, c'est
pourrait
plus dur.
retrouver. C'est plus dur. C'est une course qui est très longue, très exigeante aussi. Je sais pas ce que ça vaut. Van der Poel a une grosse capacité d'endurance, je trouve. Pogacar sera en pleine préparation. Et aussi pour le Tour de France, enfin, en tout cas, on continue dans cette lancée-là. Donc, je sais pas. Après, Pogacar, c'est un cannibale, hein. C'est un mec qui a envie de tout gagner. Donc, je pense que s'il peut aller chercher Liège et jouer la gagne jusqu'au bout, il la jouera. Mais je pense qu'on peut avoir un duel très intéressant entre les deux. Et en fait, si Van der Poel continue enfin, si Pogacar et Van der Poel font les mêmes numéros qu'ils font à chaque fois, c'est-à-dire partir à 60 ou 80 bornes de l'arrivée, bah, en vrai, si on a un groupe de deux à partir de 80 km de l'arrivée ou 60 bornes de l'arrivée, ça va être, je pense, un gros duel parce que bon, pour moi, tu es Pogacar sur les Ardennaises, enfin en tout cas sur Liège, tu n'as pas envie de finir au sprint avec Van der Poel, donc tu tentes tout ce que tu peux dans chaque mont et Van der Poel, il va se dire la même chose. Donc je pense qu'on peut avoir un duel très intéressant entre les deux. Je ne saurais pas actuellement te dire à qui est l'avantage. Donc voilà, c'est un peu équivalent pour moi.
Ouais, bah écoute, moi je vais pas me prononcer de façon, enfin on fera une preview de Liège-Bastogne-Liège, mais j'y crois assez finalement. En fait, enfin on se dit qu'avec ces mecs-là, voilà, il y a pas de limite, j'ai l'impression. Et en tout cas, Van der Poel, il aura aucune pression puisqu'il a déjà réussi sa campagne de classique, donc ce sera vraiment du bonus pour lui. Donc je me dis pourquoi pas, même si voilà, à mon avis, pour moi, le seul qui est vraiment au-dessus de Mathieu Van der Poel aujourd'hui, c'est Tadej Pogacar. Et peut-être que Liège, ça monte un chouïa trop face au Pogacar actuel, qui est
Un
devenu vraiment
Remco
un monstre.
peut-être.
Ouais, mais Remco, il y sera pas, on en reparlera
Oui,
après, le
mais
Pays
tu
Basque. Mais
vois.
oui, bah oui. Non, mais du coup, écoute, réponse dans 2 semaines. Mais en tout cas, bon, après, c'est sûr que si on voit que Mathieu Van Der Poel déjà sur l'Amstel, c'est difficile pour lui. C'est sûr qu'à Liège, ce sera complètement mort. Mais du coup, écoute, j'ai hâte de voir ça parce que finalement, je me dis, ouais, Pogacar, il est fort, mais Van Der Poel, il est quand même sur une dynamique incroyable. Donc, écoute, on n'en a pas fini d'en entendre parler de Mathieu Van Der Poel, je pense, sur ce mois d'avril. Si ça te va, on va reparler de la course de Paris-Roubaix. Alors, avant de parler de la course des adversaires, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur l'équipe Alpecin de Koenig, parce qu'on disait, voilà, cette équipe autour de Mathieu Van Der Poel, ils peuvent vite se retrouver isolés avec Philipsen, etc. Au final, j'ai l'impression que, au-delà du chef-d'œuvre qu'a livré Mathieu Van Der Poel, c'est une masterclass de l'équipe Alpecin, non?
Ouais, grosse masterclass. Déjà, tu fais 1 et 2, c'est incroyable. T'as Vermeersch qui
Deux
vient
ans
faire
de
6
suite.
aussi. 2 ans de suite, 1 et 2, ouais. Vermeersch va faire 6. Non, ils ont vraiment bien géré cette course. Ils ont su. En fait, ils ont fait. Pour moi, ils ont fait ce que les autres équipes auraient dû faire, c'est-à-dire prendre les commandes de cette course dès le début. Voilà, pour moi, la Lidl Trek aurait dû faire ça. Pour moi, UAE aurait dû faire ça. Groupama aussi aurait dû essayer de le faire. Trois équipes potentiellement qui auraient pu prendre les rênes de cette course, mais au final, c'est Alpecin de Koenig qui le fait et qui le fait très bien. Van der Poel a roulé. Philipsen a suivi les différentes accélérations. Donc ouais, l'équipe a vraiment bien joué le coup, garder Philipsen en second groupe. Alors j'aurais bien aimé savoir ce qu'était la tactique interne au départ de la course, si c'était prévu que Van der Poel justement parte en solitaire et que Philipsen règle ce deuxième groupe, ou si vraiment ça s'est joué en mode les gars on vous laisse faire votre course et puis on verra bien. J'aurais bien aimé savoir comment ça s'est passé en interne. En tout cas, très belle gestion de course de leur part. Et pff, franchement, Alpecin de Koenig en ce début de saison, c'est... Honnêtement, c'est la meilleure équipe du peloton, hein, je pense. En
Ah
tout cas,
mais
sur ce format-là. Hein.
ah bah trois monuments, trois victoires pour Alpecin, donc
Bah ouais.
non mais enfin c'est incroyable et tu vois
Et trois fois dans le
c'était
top 10, non? Non, sur le Tour des Flandres, il n'y a que Van der Poel qui est dans le top 10.
n'y a que Van der Poel je crois ouais
Ouais.
mais moi ce que je trouve assez incroyable c'est que ouais tu vois la dynamique de cette équipe et chaque année c'est un peu la même chose, on les voit pas du tout au mois de janvier, au mois de février, ils ont un programme très light etc, et à partir du mois de mars ça emmené par effectivement leurs deux leaders, ça gagne de partout, mais il n'y a pas que les deux leaders qui gagnent, hein. Axel Laurens il a gagné, Timo Kielich il a gagné, enfin non non vraiment Quinten Hermans il a gagné autour du Pays Basque, donc c'est vraiment une équipe de gagneurs Alpecin de Koenig et là enfin voilà ils ont livré une masterclass, franchement j'attendais pas du tout à ce qu'ils fassent exploser la course comme ça, je pensais pas que ce soit c'est enfin je pensais justement qu'ils seraient dans un peu une attitude défensive jusqu'à la trouée
Bah ouais.
d'Arenberg, et en fait bah les mecs non mais tu vois les Riesebeek, Sylvain Dillier, Plancarte, les mecs ils font exploser le peloton. Enfin, je m'attendais pas que derrière ces mecs-là, il reste plus qu'une vingtaine de coureurs, parce que franchement, à
Ah
130 km
bah
de
ils ont tout fait
l'arrivée, il y
sauter,
avait
hein.
25 coureurs, quoi. Donc, non, non, c'était
Non, c'était
impressionnant.
fou.
Tu sens que les mecs, voilà, ils ont couru tous ces équipiers, là, ils ont couru comme si leur course, elle s'arrêtait à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Ils ont tout donné jusqu'à là, et l'équipe, elle a semblé en maîtrise. Ah voilà, et le seul moment où je me suis dit attention, c'est peut-être quand tu vois quand Vermeersch il lance Küng et Polite et que les trois ils partent et que tu te dis ah, attention parce qu'il y a
Ouais.
plus personne pour rouler. Puis finalement voilà, ce qui se passe en fait, à chaque fois on se dit l'équipe du favori elle va se faire piéger et tout et puis t'as toujours une autre équipe pour venir rouler hein, et là c'était la Trek de Pedersen. Bon bah voilà, enfin non mais du coup voilà, et puis tu vois, voilà, Philipsen qui, à partir du moment où Van der Poel était parti, les équipiers qui ont parfaitement joué le jeu, Philipsen qui s'est accroché, qui a fait qu'en sorte que derrière,
Ah,
ça
Philippe,
puisse
c'est un
jamais
très fort.
revenir. Vermeersch, hein, qui sort peut-être sa
Ouais.
meilleure performance, il avait fait dans 7e, je crois, du Tour des Flandres 2021, mais là, il sort une performance de fou. Enfin, voilà, non, franchement, c'est une masterclass de l'équipe Alpecin. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort, en fait. Donc, ouais, c'était assez incroyable.
Je suis d'accord. Et aussi, je trouve que tu vois, on a une équipe qui sait qu'elle a deux leaders et elle joue, elle court autour de ça. Et je trouve que bah, on n'a pas retrouvé ça forcément dans les autres équipes. Et je pense, tu vois, je me dis, en fait, Van der Poel et Philipsen, dans une course comme ça, ils arrivent à se suffire à eux-mêmes. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont tout seuls. Ils peuvent à peu près, enfin, Van der Poel sûr, Philipsen, je ne sais pas trop, enfin, mais je pense quand même, ils sont capables de gérer facilement une situation où il serait esseulé. Là où Pedersen, j'ai l'impression quand il est tout seul, il sait pas quoi faire. Stefan Kung, quand il est tout seul, bah il appuie sur les pédales. Et Nils Polite, c'est un peu le même style. Donc en fait, on se retrouve avec trois outsiders qui roulent de la même manière et qui se retrouvent sans coéquipier parce que leur coéquipier saute. Et au final, ils arrivent pas, en fait, sans coéquipier, ils arrivent pas. J'ai l'impression qu'ils avaient aucune chance de gagner la course. Et c'est là où je trouve qu'Alpecin a bien joué, c'est qu'ils font sortir tous les équipiers des trois outsiders là, de ces trois outsiders là. Et derrière, bah, ils sont complètement esseulés et ils n'arrivent pas à gérer cette course, même en étant les trois derrière. Donc je trouve que là, c'est vraiment très bien joué. Là aussi, par exemple, la Groupama ou la Lidl Trek aurait roulé pour faire sauter tous les équipiers de Van der Poel et Philipsen et que les deux se restent tout seuls dans le groupe, et bah, je suis pas sûr que Van der Poel et Philipsen ils perdent la course pour autant, tu vois. Au contraire, je me dis, bah, à ce moment-là, ils sont capables de sortir quelque chose d'assez fou, de retourner la course à leur avantage. Enfin, voilà, là où Pedersen, Polite et Kung, pour moi, n'avaient pas cette capacité à retourner la course sans leurs équipiers.
Ouais, je suis bien d'accord. Et puis du coup, on parle de masterclass tactique et physique de l'équipe Alpecin. Et j'ai envie de te poser la question en sens inverse. Est-ce que Mats Pedersen qui finit troisième, Polite quatrième, Kung cinquième et Lorenz Pitti qui étaient les premiers poursuivants, est-ce que les principaux adversaires de Van der Poel et de la Alpecin, pour toi, ils ont mal couru ou ils pouvaient pas faire mieux?
Non, je pense que c'est un peu des deux. Ils pouvaient pas faire mieux. Mais tu vois, est-ce que il y a ce podium de Paris-Roubaix que tu veux, hein. Donc Pedersen l'année dernière fait 3 aussi, je crois. Non,
Il
non, il fait
fait,
3e, ouais.
il doit faire
Non?
4. Troisième,
4 ou
c'est Van
3?
Aert. Donc
Ouais,
je
donc il
crois que
fait 4.
Pedersen doit faire 4, ouais.
Il fait 4. Donc voilà, tu veux ce podium sur Paris-Roubaix, ok. Mais je pense que tout simplement, il pouvait pas faire mieux, hein. Je pense que c'était impossible de suivre Van der Poel à la vitesse où il roulait dans les pavés, enfin, dans les pavés, pardon. C'était impressionnant, il avait une telle facilité, une telle gestion de cette course. Après, je suis quand même un peu déçu, c'est encore le même scénario qui se passe. T'as trois, t'as, t'en es là, Pedersen, oui, peut-être, pourquoi pas. Et en fait, Pedersen, jamais. Hein. Pedersen, il est pas du tout dans le coup parce que Van der Poel est juste trop fort. Et t'es obligé de te battre pour la troisième place parce que le sprint face à Philipsen, c'était quasiment peine perdue. Donc voilà, je pense que oui, on est forcément déçu de ce qu'ils font, surtout quand tu les vois rouler comme des. En plus, c'est Pedersen qui roule, je crois, à un moment donné, à 150 bornes de l'arrivée ou quelque chose comme ça.
Ouais, il était piégé.
Ouais, mais bon, tu vois, c'est quand même lui qui va rouler. Enfin, ouais, bah malheureusement, tu te fais avoir, quoi, et c'est terrible pour toi, sachant que t'es déjà un cran en dessous de Van der Poel. Si en plus tu laisses des plumes pour revenir sur lui, c'est catastrophique, tu perds complètement. Donc voilà, je pense que heureusement, j'ai envie de dire heureusement que pour Mats Pedersen, l'adversité était un petit peu plus légère parce que sinon, bah, je pense que tu t'as encore une fois pas le podium de Paris-Roubaix cette année. Hein.
Ouais, il était quand même très fort hein, parce qu'il finit troisième.
Oui, il finit troisième, mais tu vois,
Mais
s'il y a un Van Aert ou aussi Josh Starling, s'il est là, qu'est-ce qui se passe, tu vois, je sais pas. Enfin, t'as pas de cerveau qui peuvent se penser aussi, donc franchement, ouais, heureusement que t'as Polite et Kung qui sont là dans le troisième groupe, parce que
Ah
je suis pas sûr que tu
bah,
finisses
si
troisième,
Josh
c'est vraiment
Starling,
dommage,
il
hein,
avait
pour
été là
toi.
jusqu'au bout de la course, à mon avis, il aurait fini devant Van der Poel, parce qu'il est expert en accrochage de voiture. Donc, ça m'a fait, tu sais, Nibali, il avait fait la même, je crois, sur une Vuelta. Enfin, tu sais, il s'était accroché aussi et il avait remonté 1 minute sur un groupe. Parce que, en fait, j'ai vu l'image, j'ai pas
Monstrueux,
bien vu s'il
quand même.
s'accrochait bien et tout, sauf que
Mais il s'accroche complètement.
1 minute après, tu vois qu'il est revenu dans le groupe. J'ai fait, oh non, ça va pas passer, ça, c'est
Il prend
impossible.
tellement de vitesse. En
Bon,
fait, il
bah,
prenait la
écoute.
vitesse, il se lâchait, il reprenait. Bah, du coup, tu vas à
Ouais, bah
80,
écoute.
enfin 70 sur le pavé, quoi.
Bon, bah,
Mais ouais.
le mec a 20 ans, ça lui apprendra, on va dire. Voilà, il apprend le métier et puis il fait des bêtises. Et écoute, ça a été très bien qu'il ait été déclassé. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il devrait y avoir une petite sanction pour les directeurs sportifs dans ces cas-là, parce que je pense que le coureur, il n'est pas là à dire au directeur, attends, attends, j'ai un. Enfin, voilà, je pense
Mais il se rend pas
que.
compte au début, je crois, hein, parce que il continue à rouler dans le peloton
Oui,
à un moment donné, et au final on lui annonce, tu vois.
Je sais pas, mais écoute, bon bah écoute, enfin voilà, dans tous les cas, c'était la bonne décision. Nils Polite, hein, moi qui me, il fait une super campagne de classique quand même. Enfin,
Bah
depuis
ouais.
le 3, enfin il était là même depuis le Newsblad où il se fait battre un peu bêtement par Jan Tratnik, mais au final il est récompensé par un podium sur le ronde. Et enfin voilà, Nils Polite qui avait un peu disparu depuis son podium en 2019 derrière Philippe Gilbert, voilà une vraie, enfin voilà un mec qui s'est bien retrouvé là depuis son passage chez UAE.
Ouais, c'est chouette pour Nils Polite, s'il continue sur une bonne lancée. C'est vrai que podium sur le rond, quatrième sur Roubaix, c'est génial, je pense, pour voir un coureur comme ça, qui en plus là, pas forcément l'équipe non plus pour. Voilà, à voir comment il sera pour potentiellement l'année prochaine et une nouvelle mince campagne de Flandrienne. Mais en tout cas, c'est un coureur qui cette année s'est bien saisi, j'ai envie de dire. Et voilà, on connaissait ses qualités de rouleur à Nils Polite, donc on n'était pas trop. On savait de quoi il était capable quand même, mais je trouve ça. Tu vois, son podium sur le Tour des Flandres m'a quand même assez surpris. J'étais content de le voir là, et quand même, en même temps, surpris parce qu'il finit quand même devant pas mal de gars qu'on aurait plus attendu sur ce podium du Tour des Flandres. Donc, c'est génial. Et puis, cette quatrième place sur Roubaix, tu vois, il accroche le bon wagon, il est là, il fait le taf qu'il faut. Donc non, franchement, c'est chouette. Il n'a pas cette étiquette de favori de la course, mais il est quand même là, dans les premières positions. Et on entend parler, et ouais, c'est franchement c'est agréable de revoir l'Hispolyte à ce niveau-là de la course.
Ouais, et puis bon, bah, je nous épargne de parler du bilan des Français parce qu'il y en a pas
Oui.
tellement, malheureusement. Bon,
Ah
Christophe
non.
Laporte, voilà, qui est, enfin, déjà, qui a pas eu de chance. Et puis ensuite, à mon avis, qui était pas dans sa meilleure forme, malgré tout, qui revient bien en 25e, bon, à 6 minutes. Bon, je pense que dans tous les cas, ça aurait été difficile de peser, mais il a pas non plus été verni. Et puis, Tom Pidcock qui vient prouver que même s'il a la technique, quand tu pèses 60 kilos,
Eh oui.
sur les pavés de Roubaix, bah voilà, même si t'es Tom Pidcock, au bout d'un moment, voilà, tu subis. Et je pense que Tom Pidcock, ça sera dur un jour de remporter une course comme Paris-Roubaix. Le Tour des Flandres, je dis pas, mais ça m'a quand même l'air plutôt d'être un Ardennais plutôt qu'un mec qui va briller sur des courses un peu trop plate comme ça.
Complètement d'accord pour Pidcock.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Paris-Roubaix?
Non, mais rapidement, juste fait pour la chicane, finalement, comme
Ah
ils sont
oui, la
arrivés à 30,
chicane.
comme ils sont arrivés à 30 dedans, il n'y a pas eu de problème. Mais tu sens le ralentissement, t'as senti le ralentissement, pas trop de risques parce que voilà, pas de peloton groupé. Donc finalement, j'ai envie de dire, l'organisation s'en sort plutôt bien.
Ouais, moi je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien parce que on a déjà vu à 30 commencer à frotter de fou dans un petit groupe de
Bah ouais.
30. Imagine qu'on ait eu un Paris-Roubaix où la course soit pas lancée de loin, qu'ils soient arrivés à 150. C'était
Ah
impossible
bah.
qu'on ait pas de chute. Enfin,
Mais c'est Alpecin de Quenin qu'ils ont eu des contacts avec
Je sais pas,
ASO, et ASO ils
mais.
ont fait ouais, vous pouvez rouler pour qu'il coûte 30 mecs au niveau de la chicane, s'il vous plaît.
Non, non, mais je pense qu'il y a un vrai débat à
Oui.
avoir parce que, enfin, on a bien vu ces images, les mecs, ils étaient prêts à tout pour passer en tête. Et enfin, c'est sûr que sur un peloton de 30, bah, t'as forcément moins de problèmes. Mais moi, je suis sûr et certain que s'ils avaient été un peloton complet, là, il y aurait eu une catastrophe. Bah, franchement, ils étaient tous au sprint, quoi. Donc, bon, bah, écoute, dans
Ça
tous les
sera
cas,
arrêté,
voilà,
hein.
finalement, ça reste un non-événement puisque tout s'est bien passé. Donc, écoute, je pense qu'il y a un an, voilà, pour faire un constat et peut-être trouver quand même un chemin un peu plus approprié ou une autre solution que cette chicane. Donc, en tout cas, ils ont de la chance. Voilà, ça s'est bien passé. Donc, on verra l'année prochaine. Et bah, écoute,
Par
si
contre, je te coupe
ouais.
vite fait, mais la vitesse aussi de la course,
Ah ouais, c'est
40,
bon.
quasiment 48 km/h de moyenne, alors qu'il y a 55 km de pavé, enfin c'est fou quoi, ça c'est fou, c'est vraiment dingue. Voilà, je voulais juste mettre cette petite, toute petite
Bah.
parenthèse, mais c'est impressionnant.
J'ai vu un tweet qui était assez marrant qui est passé. C'était avant cette édition, personne n'était allé aussi vite que Jonas Abrahamsen sur un Paris-Roubaix. Jonas Abrahamsen, il finit 27e à 6:33. Ça veut dire que le mec qui finit 27e de ce Paris-Roubaix à plus de 6 minutes, il a déjà battu le record de vitesse de Roubaix. Donc ouais, non, Van der Poel, là, ce qu'il a fait tout seul en plus, enfin, c'est allé très très vite et on le voit quand même parce que les
Ouais.
écarts ils sont énormes. Donc ça a été un Paris-Roubaix malgré tout très très difficile et qui avait été mené tambour battant. Et bon, enfin. Bah, je sais pas trop quoi en penser, à vrai dire. Oui, les records de vitesse sont battus. Après, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises.
Ouais.
Et ouais,
Ça ne va qu'en
je.
s'améliorant.
Non, mais bon, après, voilà, c'était une édition où il a pas plu, où le pavé avait quand même séché, où ce qui s'est fait relativement vent de dos. Alors après, bon, voilà, je veux pas rentrer dans des considérations comme ça parce que j'ai pas assez d'éléments. Toujours est-il que voilà, ça va vite, ça va de plus en plus vite et voilà, je pense que ce record dans 3-4 ans, il sera encore battu. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, les courses vont de plus en plus vite. Les coureurs, voilà, ils sont très très forts. Ils sont sur des top machines. Donc je pense que voilà, on peut s'arrêter là en tout cas sur l'analyse parce que je sais pas
Complètement.
dire plus. Mais voilà, toujours est-il que le niveau il est de plus en plus élevé dans le peloton et il y a plein de coureurs qui disent d'ailleurs. Hein, alors je suis pas spécialiste des braquets, mais les braquets, les développements qui sont emmenés aujourd'hui sur des courses plates, ben voilà, c'est de plus en plus impressionnant. Donc, voilà, c'est la dynamique actuelle du cyclisme et c'est pas près de s'arrêter. Et bah écoute, on va aller sur une course où c'est allé un peu moins vite parce qu'il y avait un peu plus de bosses et puis malheureusement il y avait quelques chutes. C'est le Tour du Pays Basque qui a eu lieu la semaine dernière. Alors avant de parler forcément des chutes ou de l'étape finale, peut-être un retour sur le tracé. Malgré tout, j'ai pas été hyper emballé à part la dernière étape sur le tracé. Je trouve qu'on a quand même eu beaucoup d'étapes qui se sont arrivées voilà, en sprint, en petit comité. Enfin, je sais pas moi, c'est le Tour du Pays Basque. D'habitude, c'est une course où j'adore le parcours. Tu vois, dès la première étape, t'as plein de bosses partout et les favoris, ils peuvent jouer un peu quasi sur toutes les étapes. Là, cette année, j'ai l'impression qu'à part la dernière, c'était quand même un parcours assez insipide. Enfin, je sais pas comment tu l'as ressenti, toi.
Ouais, complètement. Bah, tu vois, quand j'arrive la deuxième étape, les commentateurs expliquaient, oui, les favoris vont quand même se battre avant, ils vont pas attendre la dernière étape. Sauf que voilà, c'est, je pense que dans la, t'as aucune étape qui laisse un profil pour aller te essayer de gagner là-dessus au vu du profil de la dernière étape justement, qui était vraiment là un ensemble de boss comme tu disais. Donc non, le parcours en soi pas très intéressant. Alors ça, ce qui est sympa, c'est que ça a offert, mais je pense que c'était aussi le plateau qui faisait ça, et que ça a offert quand même des vainqueurs différents avec des finishes un petit peu sympathiques quand même.
Ah bah, c'est sûr que c'est les sprints avec le plateau le plus faible qu'on verra jamais sur le World Tour là, hein,
Bah
franchement.
ouais, mais bon, du coup, ça, mais je trouvais que du coup, ça apportait
Oui.
des fins d'étape assez sympathiques, tu vois. Et puis, oui, en finale, en gros, il y a un chrono et la dernière étape qui sont intéressantes pour le général, mais ça s'arrête là, tu vois. Je pense que si Evenepoel, Roglic, Vingegaard avaient été encore en course pour la dernière étape, bah, on aurait eu une bataille que dans cette dernière étape. Et c'est malheureux, malheureusement, pour le spectateur, d'avoir ce genre de choses. Mais bon, c'est comme ça, c'est le cyclisme aussi, et on le sait très bien. Mais voilà, ça n'empêche que le parcours, non, n'a pas laissé vraiment beaucoup de place aux coureurs, mis à part cette dernière étape, ça c'est une évidence.
Ouais, alors bah forcément, si on revient sur ce Tour du Pays Basque, on va forcément revenir sur la grave chute hein, qui, je pense,
Ouais.
a occupé beaucoup l'esprit de beaucoup de suiveurs et de beaucoup de coureurs pendant plusieurs heures et même plusieurs jours. Bah voilà, c'est sur cette étape 4, c'est l'étape 4, je crois, c'est ça, que remporte au final Louis
Ouais.
Menkès. Oui, bah donc une grave chute dans un virage de donc qui implique beaucoup de coureurs, notamment Jevine, qui là va devoir porter une Minerve pendant 6 semaines. Si Jevine, et après toutes ses chutes, il a encore envie de faire du cyclisme pro, c'est vraiment qu'il est motivé, parce que le pauvre, il est vraiment pas verni. Et puis bah voilà, trois des grands favoris de la course et des top coureurs du peloton qui ont été pris dans cette chute, hein, Primoz Roglic, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Alors je pense qu'on va pas faire ici le débat sur la chute et du acquis à quoi, etc. Je pense que voilà, c'est tout un ensemble de facteurs. Moi je pense que ce qui est plus intéressant là, c'est maintenant qu'on est un peu les bilans médicaux et à tête reposée, de faire un point, un état des lieux des blessures. Donc Primoz Roglic, y a rien de cassé, voilà, c'est beaucoup de plaies, etc. Mais à mon avis, il va pouvoir progressivement reprendre le vélo et sa participation à une course comme le Tour de France n'est pas remise en cause. Remco Evenepoel, bah, clavicule cassée, ça y est, il a été opéré, je crois, hier. Bon bah forcément, pas de Liège-Bastogne-Liège cette année. Et il devait découvrir également la Flèche Wallonne et l'Amstel Gold Race. Bah, ce sera que partie remise pour le Belge parce qu'il ne pourra pas être présent. Mais comme il le dit, ses objectifs long terme, que sont le Tour de France à ce stade de l'année, ne sont pas remis en cause notamment. Et voilà, je pense que celui qui a pris malheureusement le plus cher dans cette chute, et il a même pris très très cher, hein, c'est Jonas Vingegaard. Alors au-delà des Shunkin ou des Javine dont j'ai parlé qui s'en fait mal, mais dans l'optique d'un Tour de France, bah pour Jonas Vingegaard le constat il est pas le même, parce que là avec fracture de quoi, de la clavicule, fracture de plusieurs côtes et puis un pneumothorax, enfin voilà, le bilan est très très lourd pour Jonas Vingegaard qui est toujours pas sorti de l'hôpital et qui a toujours pas, enfin voilà, qui a encore, je crois, des opérations de prévues et des soins. Donc voilà, son équipe a communiqué aujourd'hui dans la journée pour dire à la fois Van Aert sur le Giro, pas sûr du tout, et Vingegaard sur le Tour, pour l'instant c'est plutôt non que oui. Donc voilà, la présence de Jonas Vingegaard sur le Tour de France, elle paraît pas du tout acquise, et on espère déjà dans un premier temps évidemment qu'il va se remettre de ses blessures et qu'il pourra déjà retrouver le chemin du vélo au cours de l'année et nous remontrer des belles choses.
Ouais, c'est sûr, c'est triste. Voilà, c'est malheureusement c'est le vélo qu'on n'a pas envie de voir, c'est ce genre de chute. Ouais, Vingegaard, c'est assez dramatique. Voilà, est-ce qu'on le verra au départ du Tour de France? Si oui, dans quel état? C'est un peu les questions qu'on va se poser. Remco, un peu moins touché quand même, mais bon, voilà, clavicule, ça c'est, ben, on va dire que c'est une blessure. Pas envie de dire mineur, mais voilà, c'est quand même moins important que ce qu'a eu Vingegaard. Donc Evenepoel sera là sera pas sur les Ardennaises, mais je pense sera là au départ du tour, c'est sûr. Roglic aussi, pas là sur les Ardennaises, mais lui encore moins touché. Mais voilà. En tout cas, Vingegaard, ouais, je pense que là sa saison, elle va avoir une toute autre saveur, pardon. Est-ce qu'on n'irait pas délaisser le tour pour s'aligner sur la Vuelta? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie de dire dans ce malheur. Voilà, on en parlait sur Radio Fringale. C'est est-ce que ça offre pas, entre guillemets, hein, avec des gros guillemets, un doublé de Giro Tour de France à Pogacar? En tout cas, les dispositions feraient que c'est optimal, malheureusement. Mais voilà, pour Vingegaard, en tout cas, cette saison, elle va être très compliquée. En espérant aussi que. Voilà, je pense que quand tu es dans une descente comme ça, tu restes traumatisé un certain temps.
Ouais, c'est ça aussi, hein.
Et on connaît l'importance de la descente dans le vélo. Certes, il y a la montée qui est très importante, mais la descente, elle fait une grosse partie de taf. En 2019, Alaphilippe, par exemple, qui lâche dans beaucoup de montées, revient souvent dans la descente, justement. C'est dans l'étape de l'Isran. Je crois que c'est l'étape de l'Isran, je vais pas dire de
Ouais,
bêtises,
c'est
mais tu vois,
ça. Non,
avant,
c'est
non,
l'étape
c'est
du
une étape
Galibier la
d'avant.
veille,
C'est
ouais.
l'étape d'avant.
Ouais,
Et
le
il retombe sur
Galibier.
le groupe, mais
Ah
à une
ouais, il fait une
vitesse folle,
descente
tu
de
vois.
malade, ouais.
Et au final, ça permet de gérer ton effort en montée parce que tu sais que tu vas revenir derrière. Et
Ouais.
là, en fait, si t'es Vingegaard et qu'on sait que t'as des lacunes en descente, bah clairement, il y a des mecs qui vont pas gêner pour aller attaquer. Et ça peut être vraiment un gros point noir dans une quête de grand tour. Donc voilà, avoir l'impact que ça aura cette saison, mais qui pour moi sera majeur, et aussi l'impact sur la carrière par rapport à ce côté-là. Et c'est pas du tout ce que je lui souhaite à Vingegaard. Il est encore jeune, il a quoi, 28, 27, 28?
Il doit avoir 27 ans, ouais.
27 ans, je crois, donc voilà, il est encore jeune, il a encore du temps devant lui, donc il a du temps pour se remettre de ces choses-là. Mais j'espère en tout cas que cette chute, ça sera vraiment un très grosse alerte pour les organisateurs de course, parce que c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de voir et qui, voilà, on n'a pas envie de revoir par exemple la situation d'un Egan Bernal qui était tombé, il tombe pas sur une course officielle, je crois, je sais plus, qui était tombé et du coup,
Non,
voilà,
il
ça lui a
était à
complètement.
l'entraînement, ouais.
À l'entraînement, ouais, mais ça lui a quand même flingué sa carrière. Et si on peut éviter, si on a déjà ces choses-là à l'entraînement et qu'on peut éviter ce genre de choses en course, ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment bien pour tout le monde. Donc voilà.
Ouais, bah voilà. On souhaite encore une fois à tous les coureurs qui ont gravement chuté dans cette chute un bon rétablissement. Déjà qu'ils se rétablissent eux, enfin voilà, parce que c'est des gens comme toi et moi, et puis ensuite
Oui.
qu'ils puissent revenir, reprendre le cours de leur carrière et que ça les pénalise pas trop sur le long terme. Voilà.
On parle beaucoup
Donc.
de Vingegaard, mais c'est parce que c'est le, voilà, c'est le
Oui,
gros.
c'est parce qu'on se projette dans la suite de la
Mais il y en a
saison.
plein d'autres qui sont tombés aussi. Il y a Tesfasian qui tombe, je crois aussi. Même le premier à tomber, il me semble, si je dis pas de bêtises.
Ouais, il
Mais
y en a
voilà, il y en a
beaucoup de
pas
gens.
mal d'autres
Sean
qui
King qui est
tombent.
tombé, il y a Steph
Ouais.
Kras qui est tombé aussi, qui s'est fait
Steph
très très
Kras,
mal,
ouais.
très très mal. Donc voilà, on souhaite à tous ces coureurs un.
Et tous ceux qui ont vu la course, enfin, qui ont vu la chute aussi, hein, ça peut
Bah
avoir un
bah non,
impact,
c'est
hein,
clair,
quand tu
c'est
vois que ça
clair.
tombe comme ça. Voilà, t'es pas rassuré. Puis on n'a pas à la télé le bruit que ça fait quand y a une chute, tu vois, mais c'est assez terrifiant, je trouve, le bruit quand même. Tu vois, par exemple, Evenepoel qui glisse sur 50 mètres, je pense que le bruit et l'image devaient être assez terrifiants à voir.
Et ce qui est dingue quand même, c'est que tu te dis, bon, bah voilà, il y a une grosse chute comme ça, et bam, le lendemain, t'apprends, la diffusion
Ouais.
n'a même pas commencé, Mikel Landa est chuté, il vient de se fracturer la clavicule, tu te dis, ouais, c'est pas possible là, mais ouais, bah je pense que voilà, c'est la loi des séries, c'est très triste, et en tout cas, bah voilà, comme tu disais, ça peut rabattre certaines cartes pour le Tour de France, en tout cas, parce que Jonas Vingegaard, c'était quand même le très très grand favori, donc bah évidemment, on va rester prudent, on va lui souhaiter une bonne récupération, et puis on va voir si comment il va pouvoir récupérer, et s'il va pouvoir reprendre les vélos cette année, et si oui, est-ce qu'il pourrait être départ du Tour, enfin voilà, ça fait encore beaucoup de questions, il est un peu trop tôt, mais forcément, ça fait poser des questions sur ce Tour de France 2024, et effectivement, ça ouvre certaines perspectives, et notamment à Tadej Pogacar qui pourra en profiter pour créer bah, lui aussi l'histoire et peut-être pourquoi pas on pourrait retrouver un doublé de Giro Tour qui semble très compliqué aujourd'hui mais ça on aura le temps d'en reparler. En tout cas bah écoute la course c'est a continué et puis on a eu une magnifique dernière étape j'ai trouvé très très voilà la course s'est lancée de d'assez loin et il y a deux Espagnols qui ont brillé Juan Ayuso et Carlos Rodriguez surtout Juan Ayuso qui remporte enfin sa première course pour le Tour je dis enfin en fait parce que Juan Ayuso j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'il est là. Et le mec, il a que 21 ans. Enfin, tu vois, il est 21 ans, c'est hyper jeune. J'ai l'impression que
Ah
enfin, ça fait longtemps
ouais. Il fait
qu'on entend
10 ans
parler
qu'il
de
est là.
lui. Enfin, tu vois, non, mais il y a quasi 2 ans et il était déjà sur la Vuelta à faire podium à 19 ans. Donc non, mais voilà,
Après, on l'entend beaucoup, quoi, surtout.
oui, non, mais c'est clair. Enfin, le mec, c'est un crack, il brille sur chaque course. Donc voilà, en
Il
tout
l'a
cas,
dit, il l'a
je
dit.
l'ai dit. Non, mais
Ouais.
première victoire World Tour pour Juan Ayuso qui a été très très costaud. Deuxième place au classement général pour Carlos Rodriguez qui remporte cette dernière étape. Et puis Matías Chelmoso qui a bien résisté mais qui a rien pu faire contre les Espagnols. Donc écoute, là, après l'Espagne qui en suffoque un peu, on va dire, sur les grandes tours et qui doit s'en remettre à des Mikel Landa ou Enric Mas, on a l'impression que cette fois-ci la relève arrive et la relève arrive de manière très très forte avec Carlos Rodriguez, 22 ans, et Juan Ayuso, 21 ans. Qu'est-ce qui t'inspire ces deux jeunes espagnols?
Bah, et le renouveau, j'ai envie de dire, franchement, c'est super chouette de les voir courir à ce niveau-là, en connaissant leur capacité, leur âge aussi, surtout. Voilà, c'est fini l'époque où c'était Valverde, le premier espagnol sur les grands tours à 40 ans. Mais je suis très content. Je suis très content. On a deux espagnols très jeunes qui essayent, qui tentent, et je trouve ça très intéressant. Ils sont jeunes, ils sont bien entourés aussi. Voilà, Ayuso, est-ce que, bon, Ayuso, il a ce, je pense qu'il va peut-être falloir, s'il veut gagner un grand tour, soit rester dans cette équipe UAE et laisser le grand tour de choix à Pogacar pour que lui s'aligne sur un autre. Mais tu vois, Ayuso, par exemple, sur une Vuelta ou sur un Giro, moi, je le vois très très bien. Ou alors changer d'équipe, voilà, pourquoi pas, pour aller jouer adversité à Pogacar sur le Tour de France, par exemple, et à Vingegaard.
Ouais, je pense qu'il a signé un contrat, je crois, jusqu'à 2026-2027. Donc,
Ouais, mais bon, c'est 3 ans, il aura 24 ou 25 ans, tu
oui. En
vois,
tout cas, il
quand
n'est
même.
pas, à mon avis, pas parti tout de suite, en
Mais
tout cas.
tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, tu vois, Carlos Rodriguez et Ayuso, c'est des deux mecs qui ont un bon profil pour gagner une Vuelta, tu vois, par exemple, qui en plus c'est un tour qui a un tout grand tour qui arrive assez tard dans la saison finalement. Tu vois, je trouve que ils gèrent vachement bien leur effort et c'est. Je sais pas, il a un ressenti assez. Je sais, j'aimerais bien les comparer à un coureur, mais je ne saurais pas te dire lequel, tu vois. J'aime beaucoup cette. Ouais, cette endurance, cette envie de d'abord, en fait, réfléchir avant d'agir, tu vois. Là où Henrik Maas, lui, j'ai l'impression que quand il faisait les choses, il réfléchissait pas vraiment quand il attaquait ou quand il essayait de suivre les roues. Bah là, Carlos Rodriguez et Roglic, moi, je les trouve très posés. Très mature dans cette phase, dans ce registre-là pour leur âge. Et ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, c'est deux coureurs que moi je verrais bien sur une Vuelta en fait en fin d'année et pour aller jouer complètement la gagne.
Oh bah moi, si je te donne mon avis, je les vois très très bien sur le Tour de France cette année, déjà aller jouer le podium. Enfin, honnêtement, Juan Ayuso, je pense c'est un peu le plus précoce et le plus doué des deux. Et d'ailleurs, c'est lui qui remporte le classement général de la course. Enfin, il a tout. On voit qu'il roule très très bien. Il a quand même écrasé le prologue de Tirreno Adriatico. Il grimpe super bien, comme tu dis. Je pense qu'il a une très très bonne gestion de l'effort. Non, non, pour moi, il sera la deuxième lame de l'équipe UAE aux côtés de Tadej Pogacar. Et si, enfin, là, on va le voir sur les Ardennaises. J'ai hâte de voir ce qu'il peut montrer, mais. Pour moi, il a un peu toutes les qualités pour faire podium du prochain Tour de France et surtout s'il y a une absence de Jonas Vingegaard, à mon avis, l'équipe
Ouais.
UAE quand même a tout pour écraser la course. Ils vont venir aussi avec Yates, avec Almeida, enfin avec
Même Marc
Sivakov. Donc
Soler, hein.
ouais, enfin voilà, non, ils vont avoir une équipe assez incroyable. Donc non, mais moi je pense qu'ils vont briller cet été. Et puis Carlos Rodriguez, moi qui est un coureur, qui est un de mes chouchous, coureur que j'adore, qui gère très bien son effort parce que lui il était lâché hein, par Ayuso, par Skelmose qu'il avait repris dans l'avant-dernière ascension. Et puis tu vois que dans la dernière il est au niveau d'Ayuso, c'est un coureur qui gère très bien son effort. C'est également un des meilleurs descendeurs du peloton. Et ça c'est hyper important je trouve dans le peloton actuel d'avoir des très bonnes qualités. On voit qu'il gagne son étape l'année dernière sur le tour là, à Morzine grâce à ses qualités de descendeur. Donc voilà, enfin, je le vois peut-être à un degré un peu moins que Juan Ayuso, parce que notamment c'est malheureusement un coureur qui a aucun punch.
Ouais, c'est
Voilà,
ça le
il
problème
vise
de
beaucoup
vrai.
son effort, mais tu vois dans un Tour de France, enfin, je trouve qu'il a des super qualités de
Bah
récupération.
sur 3 semaines, c'est
Voilà,
un gros point
donc
fort.
non, mais pour moi clairement au départ du prochain Tour de France, s'ils n'ont pas d'accident, ils seront clairement en lice pour le top 5, voire largement le podium. Pour moi, c'est vraiment deux jeunes. Très très prometteur et non, c'est vraiment en tout cas le cyclisme espagnol avec ces deux-là, il a trouvé un gros, enfin voilà, deux gros poissons pour aller briller sur les grands tours et je serais pas étonné que dès l'an prochain, si tu vois, ils soient mis pour gagner à leur premier grand tour sur un Giro, une Vuelta comme tu l'as dit. Donc. Mais je pense que voilà, dès cet été, on va les voir.
Non, c'est chouette, ouais.
Ouais. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur Ayuso, Rodriguez, voilà, bah, Skelmose qui finit troisième, un peu dans le même registre que sur Paris-Nice, il est très très fort, mais un peu limité par rapport aux deux trois meilleurs coureurs de la course, mais voilà, en tout cas,
Ouais.
il confirme après son excellente saison de l'an dernier.
Oui, est-ce qu'Elmoz il confirme de toute façon, voilà, face à Rodriguez et Ayuso, je pense que il est quand même encore une fois un ton en dessous et. Lui, apparemment, tu as plus de punch qu'un Rodriguez, mais je pense quand même une capacité. Enfin, sur 3 semaines, Skelmose, tu vois, je le vois pas trop. Honnêtement, je le vois beaucoup moins que les deux autres. Donc voilà, sur une semaine, oui, ça peut le faire, mais voilà, malheureusement pour lui, ça l'a pas fait cette semaine-là. Mais voilà, sur une course d'une semaine ou même sur des Ardennaises, tu vois, Skelmose, sur une Ardennaise, je le sens bien. Il avait fait deuxième sur la flèche, il me semble. L'année passée, oh,
Ouais,
je dis que des bêtises.
il fait deuxième derrière
Ouais,
Pogacar sur la
deuxième.
flèche. Oh, il sera un des
Ouais,
grands
donc tu vois.
favoris de la flèche wallonne. Et sur les classiques
Donc voilà.
ardennaises, il sera très très fort, à mon avis.
Donc à voir comment aussi il veut se réinventer. Moi, je pense que c'est un coureur qui peut être très très bon justement sur des profils ardennaises et potentiellement sur des courses d'un jour aussi et sur des courses d'une semaine en fonction de qui s'aligne quoi, j'ai envie de dire, en fonction aussi de l'image du parcours. Voilà, on peut s'attendre à tout. Sur le chrono, il a pas été mauvais du tout. Au contraire, il fait dans le top 10. Je
Ah,
crois
il
il est
serait.
7e.
Skelmose?
7e, non? Ouais, je sais
Il fait
plus.
troisième du chrono.
Troisième, ok,
Ah
pardon.
ouais, non, il roule très
Bah,
très bien en
je le
plus, hein.
dégrade. Donc non, franchement, voilà, très bon coureur et à suivre aussi parce que bah voilà, il est quand même assez jeune aussi.
Ouais, et puis avant de parler des Français, moi je voudrais quand même parler de la densité de l'équipe UAE. On en avait parlé au Tour des Flandres où il place quatre coureurs dans les 10-12, si je crois. Et bah là, c'est pareil au classement général. Ayuso premier, Marc Soler quatrième, McNulty cinquième et Del Toro septième, quatre coureurs dans les sept premiers. C'est assez incroyable. Je trouve qu'ils ont encore passé un cap cette année, UAE. Et autant j'aurais dit que l'année dernière, ils étaient encore hein, derrière la Visma, mais j'ai l'impression que cette année, depuis le début de l'année, là, l'équipe, il n'y a pas que Pogacar, ils sont tous à un niveau incroyable. Il y a une densité chez ces coureurs et on parle pas des Morgado, Tim Wellens, Polite dont on a parlé avant. Enfin voilà, ils sont tous très très forts. UAE là, c'est assez incroyable. Hein. Et puis même on a vu des mecs en début de saison là. Enfin Diego Ulissi qui allait chercher son étape, Mark Hirschi qui a gagné. On a vu comment il s'appelle, Finn Fisher Black qui a gagné. Enfin voilà des. Non mais ils ont. C'est une équipe, c'est incroyable. Hein. Enfin franchement, ils sont trop trop forts. Je sais pas si tu voulais réagir là-dessus.
Non, 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 du tout, ouais. Très bonne saison pour eux, très bonne gestion de leurs courses, que ce soit les courses d'un jour, que ce soit les courses d'une semaine, franchement, très très bon. Et voilà, ça montre des belles choses. Et franchement, s'ils arrivent dans ce même état que, dans cette même optique, pardon, que cette dernière course sur le Tour de France, bah, ça peut donner vraiment quelque chose de sympa. Là où on aurait pu les voir, par exemple, s'effondrer, en tout cas, mal gérer leur tour, s'ils arrivent avec que des grosses têtes d'affiche. Et s'ils continuent comme ça, je pense que ça peut faire vraiment très très mal sur le Tour de France.
Et puis pour finir sur cette belle semaine au Pays Basque, la belle semaine des Français, parce qu'on a eu quand même deux victoires d'étape françaises, avec Paul Lapeyrat sur la deuxième étape et puis Romain Grégoire sur la cinquième. On a un top 10 au classement général avec Kevin Vauclin qui fait combien? Il fait huitième Kevin Vauclin au général final. Et puis Alex Baudin également qui fait dixième du classement général. Donc une belle semaine des Français.
Très belle semaine des Français, ouais. Deux victoires, donc Paul Lapeyrat qui fait un très beau sprint, bien emmené par Bruno Armirail. Aussi, on a Romain Grégoire qui, pareil. Alors Romain Grégoire gagne et en plus il était tombé l'étape où Paul Lapeyrat s'impose. Donc belle revanche, j'ai envie de dire pour le Bisontin. Mais en tout cas, c'était très chouette de les voir gagner tous les deux. Ces deux coureurs, bon, Romain Grégoire, on pouvait s'attendre à ce qu'il prenne une victoire, mais très content pour Paul Lapeyrat. Je trouve que l'équipe Decathlon J2R réalise quand même un bon début de saison aussi. Ils sont passés pas loin sur l'UAE Tour. On a aussi Dorian Godon qui est pas mal, qui a fait une perf, enfin pas de perf, mais il avait fait des bons résultats récemment
Il
aussi.
fait deuxième
C'est
sur
ça.
la dernière étape de la Catalogne.
Merci, tiens. Merci
Ouais.
Tiziens de me donner les précisions. Mais voilà, Dorian Godon qui avait fait des bonnes perfs. Et puis là, cette concrétisation avec cette victoire de Paul Lapeyrat, c'était vraiment cool. Franchement, je suis content pour eux. Je suis content pour l'équipe Decathlon J2R. J'espère que ça va continuer comme ça. Et puis voilà, Romain Grégoire aussi, bah, qui s'arrache complètement dans le sprint. Hein, on le voit, ça se joue à pas grand chose, mais en tout cas, super. Et puis Kevin Vauclin, ouais, qui nous fait aussi un bon tour. Il a vraiment bien géré, je trouve, quand même. Il est là, il répond présent. Face à quand même des monstres, hein, faut le dire, il y a quand même des gars qui sont quand même pas mal devant lui. Donc non, c'est sympa de voir les Français un petit peu briller et surtout de voir une nouvelle génération de Français briller. Je trouve ça assez chouette, voilà, qu'on se repose pas forcément sur des David Godu ou autres sur des courses comme ça et que du coup on laisse un peu plus de place, bah voilà, à des Grégoire, à des Lapeyrat, à des Vauclin qui ont aussi des choses à dire, des choses à faire. Et non, franchement, c'est agréable de voir un peu de sang neuf comme ça sur les courses côté français.
Ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, il reste plus qu'à la Groupama FDJ de tout faire là pour préserver Romain Grégoire parce que j'ai l'impression que du côté de Lenny Martinez ou Laurens Pitti, même si évidemment il y aura rien d'officiel avant le 1er août, ça sent quand même plutôt mauvais pour la Groupama et ça sent le départ. Donc là, il faudrait absolument quand même arriver à conserver Romain Grégoire, sinon Sinon, je pense que ça peut faire très très mal à l'équipe. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a fait une belle victoire, Romain Grégoire. Donc voilà, une belle semaine des Français. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter ou on peut conclure?
Non, non, rien, rien à rajouter. Non, on attend la semaine ardennaise avec grand plaisir.
Et oui, et tu parles de la semaine ardennaise. Je pense qu'en preview de cette semaine ardennaise, on va avoir une petite surprise qui va sortir dans la semaine. Est-ce
Mais
que
alors?
tu veux spoiler un petit peu?
Non, bah, j'ai pas spoilé. Je vais
Pas
essayer
spoil.
de pas de spoil. Non, on va laisser un petit peu la surprise. Mais oui, grosso modo, dans cette semaine, du coup, sortira un. Super, encore une super émission d'Écrase les pédales, un nouveau top
Ah là
10.
là là là.
À vous de deviner quel sera le thème, mais en tout cas, c'est potentiellement lié aux Ardennaises,
Eh
c'est
oui.
potentiellement lié à d'autres choses. Mais voilà, amusez-vous à trouver le thème en commentaire, ça va être sympathique. Et puis voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau de cette semaine déjà bien entamée.
Un petit indice, est-ce que Mathieu Van Der Poel sera mentionné dans cet écrase les pédales?
Normalement, Mathieu Van Der Poel sera mentionné.
Il est partout.
Où ça, on ne sait pas.
On ne sait
Mais
pas.
comme je vous spoil, Titien a participé à l'émission, donc oui, Van Der Poel sera numéro 1. Ne vous inquiétez pas.
Eh ben écoutez,
Numéro 1.
vous découvrirez tout ça dans la semaine. En tout cas, voilà, on a vécu une belle campagne de classique flandrienne et puis on a hâte d'être aux Ardennaises qui vont démarrer voilà dimanche avec l'Amstel Gold
C'est
Race. Il y a
ça.
déjà mercredi hein, un petit apéritif avec la Flèche Brabançonne, puis dimanche voilà l'Amstel aux Pays-Bas. Ensuite, ce sera mercredi de la semaine prochaine la Flèche Wallonne. Hein, ce championnat du monde des sprinteurs dans le mur de Huy et puis l'apothéose avec Liège-Bastogne-Liège, avec Tadej Pogacar contre Van Der Poel et contre plein d'autres coureurs, donc on va vivre encore des belles semaines de dingue en vélo.
Clairement.
Bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Bah voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé et puis ce que vous avez pensé de ce Paris-Roubaix, de cette semaine au Pays Basque. D'ici là, bah voilà, ne pensez à vous alimenter parce que la fringale guette. Cap sur les
Évidemment.
Ardennaises et puis merci à toi, Poppy, de m'avoir accompagné pendant ces 45 minutes de débrief.
Avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir supporté pendant tout ce temps.
Bah, c'était un vrai plaisir. Écoutez, merci à tous et puis merci à toi. Et puis j'ai envie de dire à la prochaine. Ciao, ciao!
Des bisous à tous et allez Romain Bardet!